si les groupements d'employeurs fêtent leur 30e anniversaire cette année, et comme on l'a vu, sont déjà présents dans certains secteurs professionnels, c'est vrai que dans le secteur culturel, ils sont plus récents, ils sont moins fréquents et relativement méconnus. Alors il y a plusieurs raisons à ça, c'est que leur recensement n'est pas facile puisqu'ils sont à la frontière de plusieurs champs. On parle de groupements de culture, mais en réalité, il peut y avoir des structures culturelles et artistiques en font partie, mais il peut également y avoir des structures qui relèvent plutôt de l'animation, de l'éducation populaire. Il peut y avoir aussi des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire ou des industries créatives. Et ça peut également être des structures sportives. Et comme l'a expliqué Jean tout à l'heure, il peut y avoir des groupements d'employeurs qui sont soit sur le seul secteur de la culture, soit sur, on dit le monosectoriel, mais ils peuvent être attachés aussi à plusieurs secteurs. Donc, leur recensement n'est pas facile. Et puis, c'est aussi il n'y a pas d'organisme qui soit officiellement missionné pour faire de la veille sur le sujet, pour les compter, pour les observer, pour actualiser. Néanmoins, à l'occasion des rencontres du HAR qui ont lieu en fin d'année avec les groupements organisateurs, on réalisait un repérage, alors qui est imparfait et qui a quand même le mérite d'avoir été une première carte de France que voici. Donc, qui vous montre un peu la cinquantaine de structures qui avaient été repérées. Alors, par rapport à les structures qui étaient identifiées en 2012, certains avaient disparu, d'autres sont nés. Donc, vous aurez l'occasion, cette carte est en téléchargement sur le site respectif, donc vous pourrez la regarder plus attentivement, mais ça donne quand même une idée qu'il n'y en a pas dans tous les départements de partout, mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on puisse faire une carte. Et à partir de cette liste, on en a appris un certain nombre pour essayer de mieux les connaître. Alors on a récolté des données qui n'ont pas de valeur statistique, mais qui donnent quand même des grandes tendances, et puis qui corroborent un peu ce que disait Jean, c'est que c'est un outil qui peut décliner de façon diverse, de façon assez plastique. Et je vais vous donner quelques éléments, une sélection de ce qu'on peut dire de ce paysage des groupements d'employeurs culture. Donc au niveau des membres et des adhérents, donc, effectivement on voit que c'est des groupements d'employeurs à géométrie variable. On peut avoir ce qu'on appelle des micro-GE, des 2 ou 3 adhérents, avec des groupements d'employeurs qui eux sont plus gros, qui comptent 40 adhérents jusqu'à certains 80. C'est quand même plus rare. On peut avoir des groupements d'employeurs qui sont dans la même discipline, uniquement le spectacle vivant, uniquement les librairies, uniquement l'éducation populaire, mais il y a des groupements qui peuvent mélanger une compagnie de théâtre, une association audiovisuelle, et c'est là aussi une configuration tout à fait possible. On a aussi des adhérents qui pratiquent la même activité, ou au contraire des adhérents qui pratiquent différentes activités. Et il y a même, quand c'est sur le même champ, je pense notamment à un mouvement d'employeurs qui s'est créé sur la chaîne du livre. Donc eux, ils affichent clairement dans leur projet l'idée d'être sur des librairies, mais aussi sur l'édition et sur l'imprimerie. Alors qu'inversement, d'autres mouvements vont être uniquement sur des structures qui comptent l'action culturelle, par exemple. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de taille ni de composition en soi idéale. C'est des choses qu'on a pu constater, c'est quand même à chaque fois du plus humain, et telle composition qu'aura eu du sens à un moment donné sur tel territoire, elle n'est pas systématiquement transférable et elle n'a pas forcément le même sens ailleurs. Donc au niveau des... Donc, tout ça pour dire aussi, quant à la question existe-t-il une taille idéale de mouvement, c'est difficile de répondre. Et de même sur quel poste on peut partager. Donc il y a bien sûr ce qu'on appelle les fonctions support. Donc ça peut être plus les choses administratives. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai mis vigilance sur la terminologie comptable, puisque c'est une profession réglementée qui existe un genre d'experts comptables. Donc les tâches administratives sont possibles, mais pas peut-être de la comptabilité. Voilà. Il y a également dans certains groupements d'employeurs, des chargés de diffusion lancés dans les spectacles vivants qui ont pu être partagés avec succès, d'autres qui se sont essayés sur ce type de poste et ça n'a pas bien marché. Ce qu'on peut dire, c'est que le chaos avait bien marché, c'est qu'en principe, c'est que ça avait été bien préparé et que ce n'était pas le premier poste parcellé. C'est que les adhérents avaient déjà travaillé ensemble sur d'autres choses et que cette question toute épineuse de la diffusion avait été sans doute résolue parce que ce n'était pas le poste immédiatement créé. Donc là encore, vous pouvez trouver des cas et vous pourrez, dans les témoignages, dans la suite de l'après-midi, l'entendre aussi. Il y a des fois où ça a marché, des fois non. Donc là aussi, on ne peut pas répondre de façon systématique. Il y a des fonctions techniques donc, qui peuvent être des questions liées ça peut être un technicien son, un technicien lumière, mais aussi les métiers du web. Des fonctions pédagogiques, donc des postes d'enseignants, d'animateurs culturels. Par contre, à l'exception du GET, qui est le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, je ne vais pas rentrer dans le détail là, où il peut y avoir, il y a les exemples qu'on écrit sur le doigt de la main, mais des comédiens qui sont partagés. Les groupements d'employeurs n'ont pas vocation à partager des fonctions artistiques. Et quand bien même vous pouvez trouver des groupements d'employeurs où il y a des comédiens, ils vont être partagés, mais sur une fonction de transmission, d'atelier, et pas sur les fonctions de création. Donc c'est important de pouvoir dire ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que les groupements d'employeurs vous permettent de partager des métiers atypiques ou prospectifs. Vous donner un exemple, plusieurs festivals qui se sont regroupés pour créer un poste de chargé de mission de développement durable. A priori, aucun d'eux n'aurait pris le risque, n'aurait des moyens tout seul de créer un poste à plein temps de chargé de mission de développement durable. Donc, à plusieurs, ils l'ont fait. Ça veut dire que le fonds d'employeur, ce n'est pas uniquement pour créer à partir de petits bouts d'emploi, d'emplois à temps plein, c'est aussi pouvoir se dire, puisqu'on est ensemble, on peut aussi tester certains métiers. Je pensais aussi à des exemples qui concernent le cinéma, mais comme on en parlera après, je ne vais pas tout dévoiler. Des métiers atypiques aussi, donc je cite plusieurs fois l'exemple d'un régisseur de caisse franco-allemand qui a été mis en place par des membres d'un groupe d'employeurs qui se situe dans l'est de la France et qui avaient vraiment ce besoin typique et qui se sont dit ça n'existe pas, on va prendre quelqu'un, on va former la personne pour ça et qui ont vraiment sur mesure créé un poste qui leur convient. Il y a aussi certains postes de cadre, donc c'est donner accès à des structures qui ne pourraient peut-être pas avoir un poste de direction financière ou de développement web ou des fonctions stratégiques. Ça leur permet d'avoir accès à ce type de poste. Il y a également possibilité d'avoir des contrats aidés, en tout cas il n'y a pas de conforme. Et là aussi, en termes de nombre de postes, donc, il y a des groupements qui fonctionnent très bien en ne partageant qu'un poste, d'autres qui en partagent plusieurs dizaines, c'est quand même un peu plus rare, mais on a le cas d'un groupement d'employeurs qui partage de nombreux professeurs de musique et qui a atteint, quand même, j'ai plus les chiffres en tête, mais un nombre assez important de salariés. Donc c'est un peu éclair comme panorama, mais ça montre justement toute cette diversité qu'on peut trouver. Et là aussi, il peut y avoir les mêmes types de postes, des postes variés. Il y a des groupes d'employeurs qui ne partagent que des postes administratifs, d'autres qui au contraire choisissent vraiment de répondre de A à Z aux besoins d'une même famille professionnelle et qui vont à la fois couvrir l'administratif, le technique et être un peu à 360 degrés. Alors ce qu'on voit, c'est que ces groupements d'employeurs, en tout cas dans la culture, ça peut être un peu un levier pour les ressources humaines ou richesses humaines. C'est un terme que depuis quelques mois on emploie et que j'aime bien. Donc on peut dire aussi que c'est un levier pour les richesses humaines, donc à la fois pour les salariés, puisque ça permet quand même de proposer des postes de qualité qui sont plus évolutifs, et notamment dans les structures culturelles dont un certain nombre ont été fortement consommatrices de contrats aidés, on a vu parfois un petit peu les limites. Alors, c'est très important de les employer, que ça puisse exister, mais à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir aller dans d'autres formes d'emploi, de réussir à fidéliser un peu les salariés parce qu'ils ont des perspectives, parce qu'on leur propose des évolutions, parce qu'il y a un réel engagement des employeurs aussi, et de réfléchir un peu d'emblée à la pérennisation possible, donc le groupement d'employeurs peut le permettre. Pour les membres du groupement d'employeurs, c'est vrai que ça permet d'améliorer la fonction employeur sur les postes partagés. que vous comprendrez bien que quand on est plusieurs autour d'une table, il faut se dire, ben, où les telles personnes vont avoir besoin, à telle période, il faut se concerter avec les autres, donc ça oblige à anticiper, à être plus précis, à être un peu rigoureux. En même temps, c'est toujours aussi des bases de travail qu'il est possible d'ajuster. Là aussi, chaque groupement a sa souplesse, plus ou moins en fonction de son fonctionnement intérieur. Et ça permet surtout aussi de pouvoir progresser sur la fonction ressources humaines de façon plus globale. Il y a certains groupements, puisque ça, les gens n'ont pas le temps de venir, puisque vous m'avez coupé, mais les groupements d'employeurs peuvent aussi apporter du conseil en ressources humaines à leurs adhérents. Et donc, on a des cas où certains adhérents sollicitent le groupement d'employeurs, non pas pour se répartir un temps de travail d'un salarié partagé, mais parce qu'ils sont en recrutement ou en recherche d'un profil de poste sur une autre thématique, et qui reconnaissent au groupement d'employeurs une compétence. Ils ont un interlocuteur qui va pouvoir les aider à travailler vraiment leurs besoins, à faire des diagnostics, à faire des choses peut-être plus prospectives. Et ça, c'est un élément qui est important, alors qu'il n'est pas développé partout du groupement d'employeurs, puisque ça suppose quand même qu'il y ait une maturité, qu'il y ait une demande, mais ça a quand même tendance à se développer. Ce qu'on voit aussi, c'est que au-delà de ce partage de temps de travail, il y a vraiment, au travers de cet outil, un certain nombre de groupements qui défendent un projet, et parfois de façon forte et militante. Certains sont vraiment sur accompagner des individus, donc bien sûr, comme on disait, en proposant des postes évolutifs, mais certains font aussi des choix, même s'ils ne sont pas des GEC, c'est-à-dire des groupements pour l'insertion et la qualification. Ils font le choix de recruter et de former des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ça fait partie aussi de leur projet et d'aller, de ne pas les lâcher en cours de route, d'aller, de, si ça ne marche pas avec un adhérent, ben, de trouver un autre adhérent avec qui ça peut marcher, et vraiment d'accompagner ces personnes dans la remise à l'emploi et puis dans un parcours. Ça permet aussi, comme vous disiez, de professionnaliser les structures à la fois sur la question des ressources humaines, mais finalement un peu plus largement, puisque quand on tire la crise de fil des ressources humaines, ça oblige aussi à dire ben, c'est vrai, mais finalement on a le budget l'année prochaine, donc ça accélère et ça structure un peu toutes les questions qu'on peut se poser, donc ça contribue à professionnaliser les structures. Et certains groupements sont vraiment destinés à des petites structures. Certains disent nous on est vraiment là pour aider les premières structures à faire le pas de passer à l'acte pour créer un premier emploi, même s'ils n'en ont pas le volume au départ. On est vraiment là pour tirer des structures vers le haut. On croit que cette compagnie-là est plus professionnelle, on l'épaule là-dessus. D'autres sont, alors, soit en principe, c'est ceux qui sont soutenus par le pouvoir public, je pense à un grand affaire comme la GEC en Aquitaine, où là, le projet est vraiment ambitieux, puisque c'est penser l'emploi culturel au niveau d'un territoire régional. C'est vrai aussi en Lorraine, un territoire qui est assez délimité, il y a un groupement d'employeurs qui a été créé, d'ailleurs à l'initiative du Conseil national, où la volonté est clairement de dire on ne peut pas que partager du temps de travail pour quelques adhérents du groupement, on est vraiment là parce qu'on veut qu'il n'y ait pas d'exode des emplois culturels sur notre région. On croit que c'est important qu'il y ait vraiment des perspectives d'emplois culturels sur les territoires. Donc c'est des messages assez forts. Ah oui, c'était ça. Donc Jean l'a évoqué, donc je ne vais pas revenir trop précisément dessus, mais quand même le citer. On voit qu'un groupement d'employeurs, ça peut avoir un effet de tremplin et d'accélérateur de parcours pour les salariés. On a aussi des exemples de personnes qui font un passage dans un groupement d'employeurs, qui sont partagées à un moment donné, et qui après ne le sont plus. Soit parce qu'elles sont embauchées par une structure, qui finalement, il y a pas mal ce petit gars et qui souhaite l'embaucher. Soit parce qu'elle a, au travers de cette expérience, le groupement d'employeurs acquis des compétences qui lui permettent d'aller travailler ailleurs. C'est également un moyen d'accélérer un peu le développement économique, en tout cas de penser autrement son développement économique, même si ce n'est pas l'objet de la vocation initiale, c'est un des effets un peu possibles. C'est également, si on l'a entendu plusieurs fois, une façon de renforcer les dynamiques de réseau et de solidarité. Alors, soit cette dynamique elle existait avant, il se trouve que c'est des structures qui se connaissaient, qui décident et qui ont un groupement d'employeurs, soit c'est des structures qui, de fil en aiguille, se sont retrouvées ensemble, et puis finalement se disent mais on a quelque chose à partager dans cet emploi, ou peut-être travailler sur, on pourra peut-être avoir des locaux communs, et à force de voir, c'est un peu comme différentes rencontres dans la vie, ça fait naître d'autres projets. Certains aussi nous ont dit que ça avait amélioré leur reconnaissance auprès des institutions, dans le sens où ils étaient mieux organisés, un peu plus crédibles. Donc là, je ne vous dis pas qu'un réforme employeur permet d'être reconnu d'emblée par les institutions, mais on a des cas où ça a permis d'y contribuer, puisque c'est un gage de qualité. On voit aussi que c'est des réponses aux enjeux actuels dans le secteur culturel. Donc, vous savez comment c'est un secteur qui est en expansion et qui est très atomisé, puisque le nombre d'associations augmente, tandis que le nombre d'emplois, lui, ne manque pas, reste stable. Il y a à peu près 30 000 associations culturelles employeuses, qui représentent à peu près 80 000 emplois à temps plein. C'est la tise et c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais ça vous donne quand même une idée. Donc il y a également un fort recours au temps partiel. On voit aussi que les pratiques de mutualisation et de coopération s'intensifient au-delà de ces questions de groupement d'employeurs. Donc les groupements d'employeurs, ça s'intègre dans ces dynamiques-là. J'en ai évoqué tout à l'heure, il y a la réforme du rythme scolaire qui fait que certains territoires, il y a des contrats qui sont proposés, des heures par-ci, des heures par-là, ça suscite quand même des interrogations. Est-ce que le groupement d'employeurs, ça peut être une des réponses? Il y a aussi la renégociation récente du régime de l'intermittent. Donc là, je parle bien des postes plutôt techniques, hein, pas des postes d'artiste. Mais certains, alors là, certains considèrent et sont très bien dans le régime de l'intermittence, mais d'autres pour qui ça devient plus dur, se disent aussi, ben, ça me dirait bien d'avoir un emploi à temps plein auprès de certains employeurs que j'ai repérés. Donc c'est aussi un complément de réponse. Donc on pourrait se dire, est-ce que le groupement d'employeurs, est-ce que c'est le rêve? Alors le rêve, c'est un petit clin d'œil à Patrick Guimard, le philosophe que vous connaissez peut-être, qui parle de résistance, de V comme vision transformatrice et de E comme expérimentation. Et je trouve que quand on parle de groupement d'employeurs, on est un peu ici sur ces trois thématiques. C'est nouveau, c'est expérimental et c'est aussi une façon un petit peu d'essayer de résister quand même à l'adversité, d'y croire. Mais en même temps, c'est pas toujours simple. Là, je vous ai mis une petite note pour dire que dans le quotidien, et là vous avez laissé tout à l'heure les speed meetings pour voir un petit peu l'envers du décor. C'est certain que c'est un dispositif qui a un très fort potentiel, et qu'en même temps, il n'y a pas, j'insiste vraiment là-dessus, à force d'avoir plus fait les gens, j'insiste encore plus, c'est qu'il n'y a pas un modèle, mais c'est vraiment des démarches au cas par cas, donc qui demandent du temps de réflexion, du temps d'ajustement. Il y a des expériences qui n'ont pas marché, il y en a qui ont été mises en stand-by, qui ne sont jamais repartis, d'autres qui ont été mis dans son bac, qui sont repartis sur de meilleures bases. Ces tâtonnements font partie des choses, c'est pas pour autant que l'outil ne marchera jamais. Il y a aussi parfois des adhérents qui vont, qui viennent, des salariés qui ça n'a pas marché, c'est des choses qui s'ajustent. C'est un outil parmi d'autres, et il se trouve que nous, on a voulu mettre le focus sur cette forme-là parce que c'est celle qu'on connaît, celle qui est défendue, mais il y a d'autres façons aussi de coopérer, de partager des emplois, et on aura le témoignage aussi tout à l'heure du centre, et puis une façon de créer de nouvelles formes de travail et de partage des compétences. Et surtout aussi, ce qu'il faut mettre en fait, c'est que le groupement d'emploi, c'est pas un outil de politique culturelle, c'est un outil qui a été créé au départ par cette femme à l'école pour partager les emplois, donc c'est malheureusement pas le groupement d'employeurs qui pourra résoudre toutes les questionnements qui traversent actuellement les politiques culturelles, et il ne peut pas non plus pallier à toutes les restrictions budgétaires actuelles. Je tiens à le rappeler, puisque cet outil est parfois un objet de fantasme, et on peut comprendre aussi, parce que les besoins sont énormes, donc c'était juste pour le replacer, pour essayer de mettre à sa juste place, donc un dispositif qui est innovant, qui a un potentiel, qui a ses exigences, mais qui a aussi ses réalités pratiques, puisque il y en a un certain nombre qui sont créés, mais qu'en même temps, c'est pas le remède miracle de tout. Un peu sur ce ce panorama. Donc vous pouvez trouver des informations plus complètes sur notre site, où vous avez plusieurs fiches et monographies sur les contrats employeurs. Vous avez aussi des petites cartes d'identité qui sont téléchargeables à partir de demain, juste le temps qu'on mette en ligne. Donc à partir du repérage des questionnaires qu'on a donnés, on a réalisé toute une série de cartes d'identité que vous pouvez aussi télécharger pour avoir d'autres exemples des formes que peuvent prendre les enfants employeurs. Vous avez aussi bien sûr le site fédéronlegécultures.com qui a été créé à l'occasion des rencontres du Havre et qui sont un appel pour que les structures personnes intéressées par les enfants employeurs se rassemblent, mettent en commun leurs énergies.